Je suis en compagnie de Stéphane Renesson. Merci beaucoup de me recevoir chez vous. Nous parlons de cette revue d'anthropologie qui s'appelle Technique et Culture et donc de ce numéro 75 qui comporte un dossier qui s'appelle Abîme, Abysse, Exomonde, Exploration en milieu limite. Et ce dossier a été coordonné donc par vous, Stéphane Renesson, plus Annabelle Vallard. Vous l'avez co-coordonné donc. J'aimerais que vous. Pour commencer, que vous nous parliez de l'histoire un peu de cette revue, parce que maintenant, désormais, c'est une très belle revue sur un papier glacé, faite de beaucoup d'illustrations en quadrichromie. On peut la trouver en librairie. On a presque affaire à un MOOC, en fait, et qui s'adresse non pas seulement à un public d'anthropologues spécificistes, mais aussi à un public plus vaste de curieux. Donc, si vous pouvez nous dresser un peu une historique de cette revue.
Oui, bon, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors ce serait une gageure de faire l'histoire d'une revue aussi prestigieuse, parce que c'est vraiment une des 4-5 grandes revues généralistes en anthropologie. Elle a toutefois une spécificité qui est celle de s'attaquer plus spécifique, donc manière plus précise, à la relation au monde matériel. Hein. On est sur une problématique de culture matérielle. C'est vraiment ce qui fait son identité. Alors c'est donc une revue ancienne qui a subi un relooking, un lifting il y a quelques années maintenant, avec des jeunes chercheurs qui ont repris le travail éditorial de la revue et qui en ont fait effectivement une revue qui d'un point de vue graphique est séduisant, tout en gardant les mêmes exigences éditoriales en termes scientifiques. C'est-à-dire que effectivement, les articles sont censés pouvoir s'adresser aussi bien à un public large, donc non spécialiste, qu'à des spécialistes justement en anthropologie des cultures matérielles qui vont y chercher des informations et de quoi comparer à leurs propres matériaux.
Donc, ce numéro 75, c'est donc un seul et même dossier qui est consacré à Abîme, Abysse, Exomonde, exploration en milieu hostile. Pour bien comprendre, en milieu limite, pas
En
hostile,
milieu limite.
excusez-moi, en milieu limite, pour bien comprendre un peu ce dont il s'agit pour milieu limite, vous ouvrez la longue introduction que vous avez écrite avec Annabelle Vallard sur un fait divers dont on a tous entendu parler, qui remonte à plusieurs années. Pouvons-nous introduire
Oui,
par ce
tout à
fait
fait.
divers?
Effectivement, à l'origine de ce numéro, on trouve cet événement assez extraordinaire. Donc, c'est en juin 2018, où 13 ou 14 enfants, je ne me souviens plus, restent piégés au fond d'une grotte, au nord de la Thaïlande. Au-delà du fait que c'était un événement assez émouvant, parce qu'ils sont restés jusqu'à 3 semaines, on a réussi à les sauver au bout de 3 semaines de recherche, assez pénible et dangereuse, parce qu'un des plongeurs de la marine thaï a trouvé la mort. Enfin, c'est une histoire vraiment extraordinaire, dans le sens où elle résume à la fois tout l'intérêt que l'espèce humaine porte à ces endroits reculés du monde qui semblent a priori hostiles, dangereux, mais qui a une certaine part de mystère, qui font certainement partie de l'attrait, mais pas seulement, c'était l'objet donc de ce numéro, que de fouiller cette problématique, et aussi donc tous les trésors d'imagination et d'inventivité que le monde, que la vie en milieu hostile comme ça nécessite. Voilà, parce qu'on sait très bien que l'humain s'adapte facilement, qu'il a plus que d'autres espèces une grande adaptabilité, que sa physiologie peut bouger un tout petit peu, et surtout qu'il a une inventivité technique, pardon, qui est extraordinaire. Et là, on est sur le cœur de métier de la revue. C'est cette inventivité technique qui permet à l'homme, ben, non seulement d'explorer le fond des cavernes, mais de se projeter au fond des abîmes, et depuis quelques années maintenant, à se projeter dans les fins fonds de l'espace, ou en tout cas à envisager le déplacement d'une partie ou de toute l'humanité vers d'autres mondes, dira-t-on. Et donc ce numéro est à la fois une manière je dirais, de réfléchir sur qu'est-ce qui fait l'attrait de ces mondes, de ces mondes obscurs, voilà, ces abîmes, ces abysses, ces exomondes, et en quoi finalement l'humanité s'est servie de cette exploration pour construire son lien aussi à la Terre. Voilà, autrement que par les techniques habituelles, justement, d'habitat classique, où on connaît, où il s'agit de maîtriser des cycles agricoles, où il s'agit de maîtriser des cycles forestiers, des cycles de la vie. Donc c'était un petit peu pour se décaler par rapport à l'idée d'écosystème et à ce qui nous relie, nous, êtres vivants, à la partie biosphère de la planète. Et à nous relier à quelque chose de plus minéralogique, de plus physique, de plus fondamental.
Et alors, ce numéro s'attarde sur notamment l'imagination technique que l'humain va déployer pour pouvoir survivre dans ces milieux limites.
Oui, tout à fait. Et là, sans en faire évidemment un inventaire complet, on a 16, 16 papiers. 16 papiers qui nous emmènent donc dans les airs, sous l'eau, dans la terre, etc. Et qui nous montrent tous les trésors d'imagination donc technique des humains pour arriver à gagner du temps. À gagner du temps dans ces milieux qui, a priori, mettent notre physiologie en danger. Voilà. Donc il s'agit de gagner sur l'espace et dans le temps. Une expérience qui est très connue des années 60, c'est Michel Siffre, qui avait, pour le compte de sociétés géologiques d'où il était issu, puis surtout du monde de la conquête de l'espace, hein, dans les années 60, où on cherchait des façons de modéliser les modifications corporelles et psychiques que ferait un confinement dans des endroits un petit peu extrêmes. On voit comment l'aventure de Michel Siffre et l'aventure des enfants dans la grotte, hein, dont on parlait tout à l'heure, montrent à quel point on est capable d'inventer, de bricoler, d'inventer à la fois des stratagèmes assez simples, techniques, des stratagèmes beaucoup plus complexes, hein, évidemment, si on parle de la conquête spatiale, on est sur une technologie qui est beaucoup plus complexe, et puis, en même temps, quelque chose dont on parle assez peu quand il s'agit de ressources techniques et d'imagination, paradoxalement, ce sont les techniques dites intérieures, psychiques ou mentales, où là, on va travailler sur la façon dont on perçoit, la façon dont on réfléchit sur notre expérience du réel. Et c'est cette modification qui va permettre ce petit delta de plus en termes d'adaptabilité qui nous a intéressés. Et l'idée, c'était de se dire, au départ, voilà, comment dans chaque élément, en suivant un petit peu une anthropologie expérimentale à la Bachelard, d'aller chercher comment les différents milieux, minéraux, aquatiques, le vide, intersidéral, etc., donc les changements de gravité, les changements de température, etc., comment ces différents changements pouvaient influer sur à la fois donc l'imagination, comment ça modifiait la conscience, et comment ça suscitait des réponses, pratiquement bêtement, mais intelligemment aussi, techniques, matérielles.
Alors, puisque vous avez parlé de cette expérience de Michel Siffre, moi ce qui m'avait stupéfié dans l'article qui relate cette expérience, c'est de... vous parliez de relations aussi psychologiques, on va dire, avec le milieu, et relater le fait qu'il y avait une comptabilité du temps, il était resté un certain nombre de temps, et qu'en fait, entre son comptage à lui et le comptage effectif de la durée, de sa durée dans la grotte, c'était pas le même, en fait, et il avait pensé être resté, je sais plus si c'était plus long ou plus court, mais il y avait un différentiel de temps, en fait, entre lui, ses propres perceptions et son propre mode de comptage, pourtant, et qui n'était pas du tout le même, puisque dans la grotte, il n'avait... un gouffre en tout cas, je ne sais plus si c'était un gouffre.
Oui, c'est un gouffre.
Il n'avait plus accès à la lumière et donc il ne pouvait plus compter les journées, bien entendu, et ce cycle temporel. Alors, un écrivain va vous être utile, c'est Jules Verne, oui. Et puisqu'on est dans la grotte, on pense bien entendu à Voyage au centre de la Terre. Vous écrivez dans votre introduction, exploitant librement les derniers développements de la science et des techniques, ces personnages testent et bravent leur nature terrestre en dévisant sur les limites du monde et de l'imagination. En quoi un écrivain de la fin du 19e siècle, comme Jules Verne, peut être un exemple fictionnel et où on peut comprendre qu'en Voyage au centre de la Terre, finalement, il a tout compris un peu à ce que peut faire l'anthropologie actuellement avec ses milieux limites.
Alors, déjà, il faut préciser que Jules Verne donc, est un très grand connaisseur. Enfin, il est au fait de toute la technologie à l'époque. C'est quelqu'un qui a une culture scientifique absolument incroyable, un éclectisme incroyable, qui fait preuve beaucoup d'imagination et qui va projeter, on va dire, le psyché humain dans tous les recoins de la Terre. C'est-à-dire qu'il va rendre, il va démocratiser finalement et même anticiper sur cet élan d'exploration qu'a le monde occidental, que porte le monde occidental industriel à ce moment-là, d'aller donc au fond des océans, au fond des gouffres, etc. Et vraiment, c'est vraiment le metteur en scène parfait de cette inventivité technique dont on parlait. C'est-à-dire que lui a précédé même des technologies. Hein. C'est-à-dire qu'il, sur les progrès des travaux en physique, en physique théorique, il a réussi par analogie à créer des technologies qui vont permettre d'explorer ces mondes et qui vont exister quelques années après. Alors, le sous-marin en est un bon exemple du fameux capitaine Nemo, même si on sait que le fait de descendre sous l'eau avec des dispositifs de ce genre-là ont été pensés assez tôt. Il y a notamment un article dans le numéro qui est écrit par Maud Pérez qui nous raconte comment Alexandre le Grand, quelques siècles avant Jésus-Christ, deux ou trois siècles avant Jésus-Christ, si je ne dis pas de bêtises, avait déjà commencé à imaginer, enfin en tout cas ses ingénieurs, les penseurs qui l'entouraient, avaient commencé à imaginer des moyens de descendre sous la surface de l'eau pour étendre le royaume d'Alexandre le Grand, pas seulement au-delà des montagnes, mais bien en dessous des flots.
Donc, enfin, et à ce propos, il y a un très bel article justement avec une riche iconographie médiévale. Bien postérieure à Alexandre le Grand.
Tout à fait.
Une iconographie médiévale avec beaucoup d'exemples d'Alexandre le Grand. Justement, dans les abysses. Très étonnant.
Tout à fait. Donc, à partir d'une fiction première, probablement, donc à l'époque de. Voilà, il va y avoir les germes de cette fiction-là au moment d'Alexandre le Grand. Et on voit que des penseurs, des enlumineurs, des écrivains, des philosophes, je ne sais plus exactement, mais des gens ont commencé à réfléchir, à commenter. Et à commenter durant des siècles cette aventure d'Alexandre le Grand qui doit reposer matériellement sur quelque chose d'assez, probablement, d'assez mince. Et donc là, on a une espèce d'accumulation dans le monde médiéval qu'on pensait assez replié sur lui-même, où en fait, on a une imagination complètement débordante, technologique, qui va aboutir au XVe siècle à des choses extraordinaires. Parce qu'on connaît tous Léonard de Vinci. Mais donc, il y a cette espèce de filière, la technique, qui va se transmettre, je dirais, de manière imaginative, fictionnelle, pendant des siècles, pour aboutir à des premiers prototypes pour le vol ou pour la descente sous l'eau avec Léonard de Vinci et d'autres, parce que je les connais pas bien. Voilà.
Alors, pour revenir à Jules Verne... Oui. En relisant « Voyage au centre de la Terre », vous avez repéré un terme, vous avez repéré le terme de « nature terrestrielle ». Or, bien entendu, dans votre longue introduction que vous avez écrite avec Annabelle Vallard, vous reliez ce numéro sur les milieux limites avec ce qui nous arrive actuellement et depuis plusieurs dizaines d'années, c'est-à-dire une catastrophe climatique et écologique qui est là, qui surgit devant nous. Et vous écrivez... Nul doute que ces questions d'ordre donc de climatique et de biodiversité prennent un ton particulier à l'heure où se précise le scénario tant redouté d'une Terre bientôt invivable pour les humains.
Oui, c'est-à-dire qu'on partait sur la question de qu'est-ce qui intéresse les humains, qu'est-ce que vont chercher les humains finalement au fond de ces abîmes, dans ces milieux limites. Quel type d'aventure technique et fictionnelle on va vivre dans ces endroits-là? Comment on repense cette question-là à l'aune effectivement de l'angoisse qui est en train d'étreindre l'humanité? Et il est important de préciser que cette introduction, le numéro se fait, enfin, et même se finalise au moment du confinement, c'est pas anodin. Donc, comme on était amené, si vous voulez, pratiquement par l'actualité, à repenser cette question-là de ce que vont chercher, cette question purement anthropologique, qu'est-ce qu'on va chercher, nous les humains, au fond des abîmes, à l'idée que la surface de la Terre elle-même, celle qui est aujourd'hui qui est habitable, qu'on a rendue habitable, celle qui nous est familière, mais qui risque, à terme, de devenir invivable, inhabitable. Donc, quelles sont les questions qui se posent ? Voilà. D'où l'inventivité technique, évidemment, prend un tout autre visage. On pense notamment à cette expérience Deep Time, qui a lieu au moment où on écrit l'introduction avec Annabelle, qui reproduit l'expérience de Siffre, au carré, avec cette idée qu'on n'est plus là forcément pour étudier les rythmes physiologiques, comme vous parliez tout à l'heure, donc l'étude du décalage qui peut arriver dans notre ressenti du temps par rapport à notre horloge biologique, pour la conquête de l'espace. Mais comment ? C'est même plus une projection de l'humain dans l'espace, mais comment nous allons pouvoir survivre dans des conditions sans doute extrêmes, sur la surface, sur notre cher plancher des vaches. Et donc, tout à coup, cette étude de l'imagination, notamment technique, des humains dans les gouffres, bah, évidemment, prend un tour presque prophétique. C'est-à-dire, on est aux limites entre l'étude de ce qui s'est fait, de ce qui se fait, et de la façon dont l'humanité se projette entre deux pôles. Bon, c'est évidemment un petit peu caricatural, mais entre donc le pôle des technophiles et le pôle des technophobes, à savoir, est-ce que pour survivre, il suffit d'accélérer la course technologique qui nous isole, entre guillemets, de plus en plus de notre environnement en rajoutant de ces couches techniques, technologiques qui nous permettent de persister, de ne pas se retrouver engloutis dans un milieu qui devient tout à coup hostile. Et puis, une autre voie qu'on a essayé de tracer à la fois dans l'introduction, qui semblait aussi, je dirais, retranscrire une tonalité qui a émergé rapidement dans le numéro dans les différents papiers, qui est plutôt celle de quel type de relation, quel type d'épaississement de la relation existentielle on veut entretenir avec notre Terre. Et que finalement, c'est au moment où on découvre que la Terre est finie, qu'on découvre que les potentialités ici, sur Terre, sont absolument infinies. De la même manière, je trouve que la plus belle illustration, c'est un papier d'Angelo Carreri, qui est donc un informaticien, qui a écrit un article sur les jeux vidéo. Et il montre qu'un des premiers jeux vidéo dont le nom m'échappe, qui est un truc d'exploration d'une grotte, est basé en fait sur le plus gros réseau karstique du monde, qui est la Mammoth Cave, qui est somewhere aux États-Unis, je ne sais plus où exactement, Kentucky, qui est au Kentucky. Et il montre comment le langage procédural informatique, dans le cadre de ces jeux-là, est né, je dirais, de manière analogique, en résonance avec cette Mammoth Cave. Et qu'en fait, c'est la captation, je dirais, mentale, parce que c'est la même personne, enfin, l'inventeur du jeu, est un spéléologue patenté. Bon, voilà. Donc, au-delà de la métaphore, et c'est ce qui nous intéressait, au-delà de la métaphore, on a cette idée qu'on est happé par ces gouffres, et que quelque part, on va y chercher des ressources. Voilà, c'était un petit peu ça l'idée. Et que donc, on est, pour poser la question différemment, un petit peu de manière décalée par rapport à ce qu'a fait Bruno Latour dernièrement avec Atterrir, et où, on s'est posé la question de savoir si finalement, Atterrir, c'était pas aussi jouer avec nos limites, et c'était faire une introspection, à la fois se lancer dans une introspection des humains, et une exploration de ces abîmes.
Vous l'écrivez très bien, ça, justement, pour accompagner votre parole, Stéphane Renaissant. Vous écrivez « Les milieux limites ne constituent pas moins un réservoir d'inspiration et d'expérience fertile pour intensifier notre rapport d'interdépendance avec Gaïa ». Il y a vraiment cette idée-là, quoi. On peut lire vraiment tout ce numéro et comprendre son utilité, en fait. Des fois, on peut toujours se poser le terme d'utilité au savoir, ou en tout cas pour l'anthropologie. Là, pour ce numéro, elle est là. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin des anthropologues, et notamment ceux qui étudient les milieux limites, pour nous servir un peu pour exemplifier, ou pour essayer de mieux comprendre, ou de mieux considérer ce que Bruno Latour, par exemple, mais avec d'autres, appelle Gaïa. Alors, oui. On pourrait prendre l'exemple d'une anthropologue qui m'est chère, c'est Sophie Houdard, mm-hmm. dont le terrain principal actuellement, elle travaille donc sur Fukushima, au Japon, même si là l'article qui s'appelle « Sans dessus-dessous, exploration en creux dans le Tohoku », il n'y est pas exactement question de ce qui s'est passé à Fukushima, mais par exemple, si on prend son exemple, elle va chercher à comprendre comment vivre avec une irradiation nucléaire.
Tout à fait. Alors effectivement, le texte de Sophie Houdard est très intéressant à cet égard. Il montre tout le travail de réparation du monde. Voilà, qui est quelque chose qui traverse un petit peu le numéro, qui est très patent dans 3 ou 4 des papiers. Et celui de Sophie Houdard le pose assez bien. C'est-à-dire, comment on peut réparer le monde, c'est cette idée que comment faire correspondre dans des endroits où, a priori hostiles, dangereux. Là, c'est le risque radioactif, mais c'est aussi le risque géologique. Hein, c'est la catastrophe, parce que en plus, la catastrophe radioactive de Fukushima, est liée à une catastrophe géologique, un tsunami qui est lui-même lié à un séisme, etc., etc. Je crois que tout le monde connaît l'histoire. Et donc, on se retrouve à un endroit qui est à la fois un paradis pour les géologues, mais aussi est donc un paradis pour les anthropologues qui cherchent à trouver des solutions pour réparer le monde. Dans le sens où, là, on a un monde chaotique. On a une surface de la Terre qui est polluée, qui a priori qui est invivable pour un certain temps. Et donc les pérégrinations de Sophie, avec toutes les personnes qu'elle emmène avec elle, donc elle a une historienne de l'art, elle a un géologue, elle a des sociologues des sciences, elle a, enfin, voilà, il y a toute une spécialiste des religions, des épiphanies dans la Medjugorje, enfin, elle a un ensemble de personnes comme ça, qui vont servir quelque part comme de capteurs. C'est-à-dire qu'elle va promener des gens dans cet espace chaotique pour essayer de relier différents temps. Donc le temps géologique, le temps de la pollution, de la pollution atomique, je cherche le mot, mais enfin voilà, la pollution nucléaire, si vous voulez. Et donc le temps de la culture, elle va aussi dans des temples où elle étudie comment les dieux sont censés retenir la terre pour empêcher les tremblements, etc. Donc elle relie un petit peu le temps des sociétés humaines, le temps de la muséographie, elle se rend dans un musée. Donc elle relie comme ça un ensemble de couches, on va dire, qui donne un sens tout à coup à cet endroit qui est polytraumatisé. Et c'est ce travail donc d'exploration qui montre bien, c'est un travail d'exploration qui va nécessiter aussi une sollicitation de la sphère émotionnelle très 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 forte qui permet de réparer le monde. Il faut, pour bien comprendre, enfin je préfère le mettre en parallèle avec deux autres textes qui sont le texte de Sandrine Texedo et Aurélien Gomboni. Sur l'idée du maelstrom de Edgar Poe, je vais y revenir dans un instant, et l'autre texte qui est celui donc de David Jacquelin sur cette mine au Canada, à Ottawa, désaffectée, qui a été polluée par un ensemble de métaux lourds parce qu'elle a été mise en exploitation pour récupérer je ne sais plus quel minerai, j'ai oublié, et dans lesquels des plongeurs plongent dans l'eau, parce qu'elle immergeait, et se trouvent nez à nez avec une bactérie qui est censée, apparemment, dont on apprend qu'elle nettoie finalement la solution est dans la caverne, c'est-à-dire qu'au fond de la grotte, on a cette bactérie qui est friande de produits de type métaux lourds qui sont un véritable poison. Donc David Jacquelin et Jules Valeur font ça en faisant une ethnographie du son qui est hyper intéressante, où ils montrent bien comment comment on peut rendre présent un ensemble d'acteurs dans cette caverne. C'est ce que fait Sophie, donc en allant chercher le muséographe, en allant chercher le géologue, en allant chercher la spécialiste de religion, en allant chercher les divinités qui sont censées tenir les tremblements de terre, etc., etc. C'est ce que font Aurélien et donc Sandrine à propos donc de ce dispositif expérimental très intéressant qu'ils ont inventé, c'est-à-dire de se promener quelque part avec la nouvelle d'Edgar Poe sur le Maelstrom. Donc cette idée comme quoi les marins, enfin un marin ou plusieurs, je ne sais plus, je l'ai mis il y a longtemps, la nouvelle, arrive à se sauver du maelstrom, donc de ce mélange d'eau et d'air qui tue les marins, a réussi en entrant, je dirais, pratiquement en sympathie avec le tourbillon lui-même, et en retrouvant des ressources émotionnelles pour attraper le bon véhicule. Là, en l'occurrence, je crois que c'est un tonneau, me semble-t-il, ou je ne sais plus quoi, qui va lui permettre de flotter et de sortir du... Voilà. Donc à la fois, on a des... Et donc l'anthropologue et l'artiste, Aurélien est un artiste, ils vont promener cette histoire, cette métaphore donc de la sortie du chaos, avec les solutions qui sont dans le chaos lui-même. Voilà. Et l'article d'Emmanuel Grimaud, d'ailleurs, tout à la fin, fonctionne un petit peu de cet endroit-là. On pourra en parler éventuellement un peu plus tard, ce qui porte d'autres messages. Mais donc là, on a l'histoire, on a trois histoires où on a des anthropologues qui travaillent avec des gens, qui leur racontent des histoires, qui vont chercher le bon moyen de raconter ces histoires, de rentrer dans des fictionnalités croisées, qui permettent de relier des ordres temporels, des forces de la nature qui sont sans commune mesure avec ce que nous sommes, ce que nous représentons les humains, et qui tout à coup à la fois donnent du sens et offrent des solutions émotionnelles et des solutions éventuellement techniques, comme dans le cas de David Jacquelin, où l'exploration... offre la solution à peut-être la pollution aux métaux lourds de toute la planète, je ne sais pas.
Oui, justement, parlez-nous de cet article de David Jacquelin. C'est un article que j'ai trouvé particulièrement impressionnant. Alors, il l'a coécrit avec Jules Valeur. C'est cette enquête autour d'une mine, la mine de Forsyth, au Canada. Et il fait un usage de l'imagination par le son. Il écrit « Nous nous débattons avec cette idée d'une recherche non plus entendue comme orientée vers la production de connaissances sûres, mais plutôt comme cet engagement avec, aux côtés de vecteurs de sensibilité. »
Tout à fait.
Enfin, ça m'a paru très, très innovant, outre le fait qu'il découvre que ces bactéries vont sans doute être très utiles pour lutter contre certaines pollutions de métaux lourds.
C'est-à-dire que là, on est dans une espèce de décentrement radical. C'est-à-dire que c'est un petit peu là une des tonalités du numéro. C'est cette idée que les gouffres nous obligent à un véritable décentrement. À la fois, ils vont nous construire en tant qu'humains, en tant que nous sommes terrestres, on revient à Jules Verne, et en même temps, pour ce faire, curieusement, paradoxalement, il faut, si on veut bien le faire, il faut avoir ce que... comment s'appellent-ils tous les deux? Monsieur Brugidou et Monsieur Clouette, les prénoms m'échappent, Fabien.
Jérémy Brugidou et Fabien Clouette.
Merci pour les prénoms. Aussi, racontent sur les projets d'habitation sous-marin. Cette idée que, finalement, si on veut réparer le monde, si on veut le respecter, il faut savoir adopter le point de vue à la fois des environnements qu'on rencontre et des éventuels habitants que l'on y rencontre. Donc c'est comment, finalement, créer une dynamique. Alors, je ne veux pas me tromper, chez eux, c'est symbiotique, me semble-t-il, chez Fabien et Jérémy. Et donc, on a dans tous ces papiers-là, et dans celui de David Jacquelin et de Jules Valeur particulièrement, cette idée d'aller chercher le moyen d'explicitation de ce qui se passe dans la caverne. Et qu'est-ce qui se passe au fond de cette grotte? C'est déjà une absence de lumière. Alors plutôt que d'en faire un problème, comme c'est le cas de tous ceux qui essayent de passer un petit peu de temps dans les grottes, ça peut rendre un petit peu fou, en tout cas ça modifie suffisamment la cognition et le sensorium pour poser quelques problèmes. Là, au lieu de... On sublime le problème du problème de lumière en travaillant à partir du son. Et du coup, ils vont inventer avec des biologistes à la fois des systèmes pour écouter le travail de ces bactéries et eux-mêmes pour écouter, je dirais, les retours des plongeurs qui amènent ces appareils d'écoute des bactéries. Donc on a une espèce de mise en abîme, hein, si je puis me permettre, on a une espèce de mise en abîme comme ça des systèmes d'écoute. Et sans ça, je dis, comme pour le travail de Sophie, etc., on a une espèce de... alors c'est pas de la stratigraphie, mais de la mise en correspondance de différents niveaux d'existence dans ce gouffre qui représente un petit peu toutes les voilà, différents rythmes, différents espaces, etc., etc. Et là, chez David et Jules, on a un exemple extraordinaire de compression de ces couches tout à coup à travers la fiction, à travers l'histoire que peuvent raconter ces gens, que racontent ces bactéries. Par le biais sonore, c'est pour ça que je m'étais permis dans l'introduction d'aller chercher un mot qu'ils n'avaient pas utilisé, mais a priori ils ne me l'ont pas reproché, mais de schizophonia que j'avais attrapé chez Schaeffer et qui me plaisait beaucoup sur cette idée qui est hyper importante sur l'histoire du son au XXe siècle, c'est-à-dire qu'un son comme celui qui est pris maintenant va pouvoir être capté et ensuite va pouvoir être modifié, se transporter dans d'autres conditions. Il va changer de sens parce qu'il ne sera plus écouté dans les mêmes conditions. Donc voilà, espèce de stratigraphie du son que je trouve assez passionnante.
Le numéro se termine avec un article d'Emmanuel Grimaud. Vous avez déjà fait des terrains avec Emmanuel Grimaud. Je pense à un film notamment, oui, à propos de combat de scarabée sur un de... Enfin, ça se passe en Thaïlande.
En Thaïlande.
Et donc, on n'a pas encore présenté vos recherches à vous, mais vous avez beaucoup travaillé sur les arts martiaux justement en Thaïlande. Et un des terrains que vous avez fait avec Emmanuel, c'est de travailler sur les combats de scarabées. Mm-hmm. Vous pouviez nous en parler en quelques mots. C'était un terrain qui m'avait paru... Enfin, j'avais beaucoup aimé ce film que vous aviez fait ensemble, puisqu'une des particularités de faire de l'anthropologie pour Emmanuel Grimaud, c'est de faire des films,
tout à fait,
entre autres.
Tout à fait. Alors, avec Emmanuel, on a fait trois terrains comme ça, je dirais, de ce qu'on appelait des zoomanités, c'est-à-dire des espèces de terrain de coopération, de coordination entre des animaux un petit peu étranges et des humains. Donc c'est trois jeux qui sont joués en Thaïlande, donc qui sont des combats de scarabées. On a fait un film sur les combats de poissons, et puis quelque chose sur les concours de chants d'oiseaux, mais qui n'a pas été réalisé pour le moment. On ne désespère pas. de le faire un jour. Et donc sur ces trois dispositifs, et celui des scarabées en particulier, on a donc un espèce d'agencement de coordination assez, à la fois assez simple et assez complexe entre des humains et des non-humains vraiment éloignés de nous dans leur phylogénétique. Donc on s'était posé la question de qu'est-ce qui fait la communication, qu'est-ce qui permet la communication entre ces différentes espèces. Et donc on a étudié les trésors d'inventivité là aussi pour entrer dans le monde dans le monde de ces animaux. Et je dirais le point commun avec ce numéro Abîme, Abyss et Exomonde, c'est un point presque William Jamesien, c'est-à-dire cette idée, moi, qui m'avait beaucoup plu, j'avais trouvé à la fin de mon parcours sur les scarabées, sur cette idée donc d'expérience pure. Qu'est-ce qui permet à un moment à un humain et un scarabée, enfin là en l'occurrence deux joueurs, deux humains et deux scarabées, à construire quelque chose qui ressemble à un jeu destiné au moins à des humains, mais qui parle suffisamment à scarabée pour qu'il joue le jeu, entre guillemets, hein, pour qu'il ait, comment aller toucher, on va dire, la fibre ludique d'un animal tel qu'un scarabée, comment ce système ludique va fonctionner. On est obligé de penser que comme le disait James, que dans le processus, les termes, à la fois là ici les humains et les scarabées, ne vont se définir que dans la relation, dans les possibles qui vont développer les uns et les autres. Et qu'au lieu de partir sur l'idée qu'il y en a un qui est intelligent, il y a l'autre qui n'est pas, il y en a un qui est très sensible et l'autre qui ne l'est pas, c'est comment ces deux vont se rencontrer, comment il va y avoir une sorte d'embrayage entre les deux, c'est-à-dire l'espèce de convention qu'on va trouver. Alors bon, du côté du scarabée, c'est un peu mystérieux parce que je suis pas un grand psychologue des scarabées, donc je ne pourrais pas en parler de manière intelligente et pertinente. Donc je vais éviter de dire des bêtises. Du côté humain, on voit un petit peu plus, et du côté humain, on voit très bien qu'on est justement dans ce que James appelait, enfin voilà, cette idée d'expérience pure, c'est-à-dire de se mettre au plan, mais vraiment zéro, de redescendre à ce qui fait exactement notre entrée dans le monde, c'est-à-dire à un moment où il y a des possibles, où tout à coup la position du scarabée et d'humain va se dégager des hypothèses que vous allez faire sur ce qui se passe dans la tête du scarabée et éventuellement sur ce qui passe dans la vôtre et dans celle du joueur qui est en face. Et donc c'est un jeu de miroir assez complexe, donc d'attribution de choses différentes et variées, alors anthropomorphiques d'un côté, zoomorphiques de l'autre, et croisées dans tous les sens, hein. C'est une espèce de maelstrom assez incroyable, et qui a des propriétés émergentes qui sont suffisamment intéressantes pour créer un jeu, pour qui le regarde, va avoir la... Même si pour un occidental qui a jamais joué au scarabée, c'est un peu étrange au départ, on a quand même bien l'impression qu'il y a des gens qui font quelque chose de effectivement pas tout à fait raisonnable de prime abord, mais qui semble relativement structuré et enjouer les gens suffisamment de manière civile. Voilà, il n'y a pas de mort, les gens sont pas sous, enfin les gens sont pas modifiés, leur conscience n'est pas modifiée, quoique. Et c'est là où c'est le gros lien avec le numéro Abîme, Abyss et Exomonde, c'est que ces plans d'expérience pure ne peuvent se réaliser que, encore une fois, qu'en faisant baisser certaines, on va dire, fonctions cognitives et en augmentant d'autres. Enfin, c'est une question de potard, comme on dit dans le son. Mais... Et évidemment, on est sur une exigence qui est celle d'essayer de rentrer en harmonie avec des rythmes qui sont, là encore on revient au rythme, il y a Michel Sif par exemple sous terre, à des rythmes qui sont pas les nôtres au départ dans notre vie de tous les jours. Et effectivement se mettre à la hauteur d'un scarabée, jouer avec les moyens de communication du scarabée, c'est-à-dire cette propension à être sensible à la moindre vibration, vous fait entrer dans le monde vibratoire de l'animal. De la même manière que si vous voulez survivre dans l'espace ou si vous voulez survivre sous l'eau, il va falloir trouver les choses qui vous font entrer en harmonie avec votre environnement, c'est-à-dire qu'il y a une vibration commune. Et là, on peut faire le lien directement avec l'article d'Emmanuel sur le durocopolum, où Emmanuel nous narre, dans le numéro 75 de Technique et Culture, donc nous explique comment... alors là, il y a beaucoup d'acteurs, hein, c'est assez compliqué, mais si on réduit au minimum, c'est de dire que... Pour voyager dans l'espace, il ne suffit pas d'y mettre de l'énergie, il suffit simplement d'entrer dans la matière. Bon, dit comme ça, on a une espèce de truc un petit peu à la limite entre le néo-chamanisme et la physique quantique. Bon, dont acte. De manière un petit peu je dirais, un peu plus sérieuse. On a une médium qui travaille avec un chat télépathe, avec une physicienne, et donc un anthropologue, Emmanuel, pour en fait mettre en route ou remettre en route ou reconstituer une machine qui servirait donc à voyager dans l'espace sans bouger. Voilà. Et donc là, on a affaire à la fois donc à une construction d'une machine un peu ésotérique, avec beaucoup de minéraux dedans, qui demande pour être activé une grande ascèse, c'est un travail spirituel, yogique, vraiment très important, et qui est donc censé nous amener au Kshana, donc au principe dans toute la pensée indienne, qui est diffusée dans l'Asie, quand je retrouve moi, en Thaïlande, qu'on peut retrouver au Japon, etc. Donc cette idée qu'il existe une espèce de matière qui unit le monde, voilà. Et que finalement, pour bouger, il suffit simplement, quelque part, pour se déplacer d'un endroit à un autre, il suffit de se déplacer, enfin, il suffit d'entrer en vibration avec cela. Et donc, vous réglez tous les problèmes énergétiques de projection de l'humanité vers une exoplanète. Bon, voilà, je ne sais pas si Emmanuel veut se lancer dans la conquête de l'espace ou pas, mais l'avenir le dira. Mais voilà, et c'est intéressant de finir avec son papier pour ce pied de nez, parce qu'on aurait presque pu commencer finalement le numéro en se disant, mais soyons sérieux, nous n'irons jamais vivre sur Mars. Soyons sérieux, les premiers homos n'ont jamais vécu au fond des grottes. C'est pas vrai. Voilà. Donc on aurait pu commencer aussi par ça, en disant, bon, voilà, donc quel est le sens de la frénésie autour d'un monde fini? Quelle est l'angoisse que nous avons autour d'un monde fini? Est-ce que le monde est vraiment fini? Voilà, on va dire que la physique quantique, la médiumnité et les chats télépathes nous offrent une porte de sortie, peut-être, alternative.
Oui, parce que à la lecture de ce numéro, et particulièrement de votre introduction que vous avez écrit avec Annabelle Vallard, le mot imagination est repris plusieurs fois. Enfin, imagination technique, ça on l'a bien compris, mais aussi imagination peut-être plus de l'ordre de ce qu'on pourrait comprendre comme de la fiction, par exemple, ou imagination telle que peuvent le comprendre, enfin telle qu'on peut le comprendre des chamans, par exemple. Et c'est vrai que les travaux d'Emmanuel Grimaud sont particulièrement adaptés, toutes les expériences qu'il mène en Inde pour comprendre les phénomènes divins, par exemple. On sent bien qu'il y a de manière évanescente un usage de l'imagination, et ce terme revient vraiment régulièrement. J'aimerais puisqu'on parlait d'Emmanuel Grimaud, que je vous interroge sur les recherches que vous avez effectuées ensemble. Vous êtes actuellement, depuis un an, en train de faire des recherches ensemble. Et j'aimerais qu'on clôture non plus sur le numéro, mais sur vous, Stéphane Renesson, en tant qu'anthropologue. Vos recherches actuelles que vous menez donc avec Emmanuel Grimaud à propos de la géobiologie. Et c'est assez curieux de ce type de recherche, et vous le menez, je crois, dans les Pyrénées.
Alors, au pied des Pyrénées, dans toute l'Occitanie, principalement l'Occitanie, mais entre Bordeaux et Toulouse, on va dire. Oui, voilà.
Oui, c'est au pied des Pyrénées.
Oui, c'est au pied des Pyrénées, quand même, voilà, on suit, il y a une orientation.
Non, c'est que je m'étais dit qu'il y avait peut-être une question montagnarde, de gouffres, de grottes.
Alors, il y a après un goût partagé avec Emmanuel pour les reliefs montagneux, mais bon, voilà, ça va pas plus loin que ça. Mais je trouve que non, le terrain nous a amené dans cette région-là. Et il s'agit, d'une certaine manière, d'explorer des nouveaux pactes qu'on peut lier avec la Terre, avec notre environnement, tel que vous l'appelez, tel qu'on puisse l'appeler. L'idée, c'est, et donc c'est pour ça, c'est une sorte de prolongement naturel aussi de ce numéro dans la réflexion, c'est jusqu'où nous sommes, nous, les humains, et perméables à l'influence des... on va dire des choses, pour des choses simplement non biologiques, voilà, tout ce qui est minéral, etc., etc. Donc la géobiologie, c'est finalement l'art ou la science de la détection des influences du cosmos, des forces telluriques sur le vivant, et en particulier sur l'humain. Et comment on peut la modifier, l'aménager pour qu'elle soit le plus favorable au vivant possible. Pour le vivant. Et donc là, on a un ensemble de théories du possible, de relations entre nous et ce qu'on pourrait appeler rapidement, par paresse intellectuelle, l'inerte. Bon, voilà. Et là, on a quelque chose d'assez complexe. Et Donc on est, ça fait un an qu'on fait ce travail de recherche, qu'il va falloir qu'on mette en forme. Et je dirais la grande difficulté, c'est d'aller chercher tous les... de la resituer aussi dans son histoire. C'est finalement la géobiologie, qui est une science, entre guillemets, donc qui s'est développée depuis une quarantaine d'années, hein, qui s'est formée en Europe et notamment en France depuis une quarantaine d'années, mais qui est l'héritière d'un ensemble de recherches qui ont été menées par les radiesthésistes, notamment. Alors aujourd'hui, c'est voilà, c'est de la radiesthésie, c'est ce qu'on appelle le néo-chamanisme, du néo-druidisme, ce que vous voulez, c'est-à-dire une espèce de questionnement de notre relation à la Terre qui va des théories, je dirais, scientifiques les plus sérieuses, à celles, entre guillemets, les plus farfelues ou les plus exotiques, et qui en même temps vont s'arrimer de manière plus ou moins intéressante, plus ou moins pertinente, à des théories physiques existantes. Et donc c'est une espèce de flou, comme ça, autour de l'idée de mesure. Est-ce qu'on peut mesurer vraiment l'influence du minéral sur les humains? Est-ce qu'on peut simplement l'évaluer? Est-ce qu'on est dans le domaine de la mesure, de l'exactitude, de la justesse? Voilà. Donc on a une espèce d'oscillation entre aller chercher quelque chose qui est alternatif au modèle scientifique qui est censé nous avoir emmené l'humanité dans le monde. Voilà, et donc là, on retombe dans toutes je dirais, la mouvance néo-chamanique, etc., pour aller rechercher des nouveaux modes, voilà, plus spirituels, de relations à l'environnement, etc. Et puis d'un autre côté, une volonté, une nécessité institutionnelle, presque civilisationnelle, de se faire reconnaître en tant que science, si on veut être écouté aussi, pour gagner une certaine légitimité, et donc qui passe par une scientificisation, en tout cas une reconnaissance de son caractère scientifique. Donc on est sur un terrain. Sur une espèce de friche où on est vraiment entre, je dirais, pour dire les choses vraiment très très rapidement, entre religion, entre spiritualité et science, où on essaye de trouver une espèce d'aucun géobiologue qu'on rencontre qui milite pour une espèce de voie moyenne, voie du milieu, hein, pratiquement, c'est pratiquement bouddhique, une voie du milieu où on tiendrait, je dirais, les deux bouts en même temps, ce qui demande une certaine agilité à la fois mentale et psychique aussi, je crois, et qui passe notamment par le développement et le cadrage scientifique d'une notion qui est très intéressante, qui est celle de biosensibilité, donc qui est ce qui dépasse nos 5 plus 1 sens, hein, ce fameux 5 ou 6 sens. Et donc, qui serait évidemment une capacité que nous, les humains, nous aurions depuis des temps immémoriaux et qu'il suffit pour d'aucuns de réveiller ou qu'il s'agit de développer, etc. Et là, quelque part, on a quelque chose d'assez ressemblant avec des sources qu'on a maniées avec Annabelle pour l'introduction du minéraux, qui était celle de dire que finalement, toutes ces expériences, notamment telluriques, enfin souterraines, etc., cette idée finalement que la source de beaucoup de choses, quelque part la source de la rationalité, je pense à ce bouquin de Ursula. Je vais pas
Le bois.
Alors, c'est pas pour le coup, c'est pas Le Guin, c'est, et je me trompe peut-être, c'est Ussinov. Alors, je ne vais pas la retrouver. Bon, il faut lire l'introduction. C'est une chercheuse qui a travaillé sur la Pythie, donc à Delphes, donc sur tous les travaux divinatoires, pas que de la Pythie à Delphes, il y en a plusieurs, mais, et qui montre comment c'est la modification de conscience, la perméabilité aux expériences un peu extrêmes dans les grottes, qui justifie et qui légitime finalement à la fois le travail de divination, mais aussi le travail de philosophe. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est de montrer que les philosophes aussi, à cette époque-là, tiraient leur légitimité d'expériences quasi extatiques dans les souterrains. Bon, c'est sa thèse, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y en a d'autres qui disent que finalement, on est beaucoup, enfin, on a un certain nombre à le penser, que c'est quand même bizarre de penser que les gens n'ont pas exploré ces gouffres-là pour, quelque part, pour ressentir ce décentrement, pour ressentir cette espèce d'ivresse, cette déstabilisation du sensorium. Et là, dans la géobiologie, on est dans autre chose. On est dans un travail très précis, très minutieux, très pensé, et qui demande là aussi une certaine forme de discipline mentale et physique pour développer cette espèce de sens plus, qui permet de nous relier, de détecter, de nous relier, d'amadouer, de converser, de négocier avec les forces cosmiques et telluriques.
Eh bien, pour terminer cet entretien, Stéphane Renaissant, je vous propose cette citation donc, de votre introduction avec Annabelle Vallard. Oui. Vous écrivez, pour connaître un peu les effets des milieux limites, que les milieux limites provoquent en nous, vous écrivez « Ils poussent plus loin l'idée d'une continuité entre l'individu et le monde alentour. Par leur entremise, nous saisissons ce désir de nous couper des repères anthropocentriques et de nous confronter à l'altérité radicale des matières. » Merci beaucoup à vous.
Merci.